Bon vendredi matin à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Ben comme ça, le vendredi 21 juin, à quelques jours de la fête nationale des Québécois, on va discuter ensemble en première heure d'émission de notre statut. C'est quoi être Québécois pour vous au moment où ce matin même, il y a mouvance dans l'identité de certaines rues, entre autres à Montréal. Vous avez entendu dans nos nouvelles la fameuse rue Amherst qui a été rebaptisée d'un nom Mohawk, Atatekin, prononciation québécoise, Atatekin, prononciation un peu Mohawk. C'est effectivement, semble-t-il, un mot qui signifie frère et sœur, qui veut insister sur la notion d'égalité entre les individus. Et c'est intéressant parce que finalement, cette revendication, ça fait très longtemps que les peuples autochtones la demandent, ce changement de nom. Amherst, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Amherst est ce fameux personnage de l'histoire, ancien général de l'armée britannique, Geoffrey Amherst, qui a dirigé la conquête de Montréal en 1760. Si Biz était là, il pourrait longuement vous parler de ça. Mais on se souvient surtout de lui comme étant quelqu'un qui aurait distribué des couvertures qui étaient contaminées à la variole pour disséminer carrément les peuples autochtones. Alors, il y avait quelque chose là de vraiment dérangeant. Pour les Mohawks, pour les autochtones de la région de Montréal qui habitaient ce territoire avant qu'on y arrive. D'ailleurs, je vous rappelle que aujourd'hui à Montréal, quand il y a une assemblée publique, que ça soit au conseil de ville ou même dans les écoles, on rappelle que le territoire qui est aujourd'hui baptisé Montréal, qui était à l'époque Ville-Marie, était d'abord et avant tout un territoire autochtone Mohawk. C'est intéressant de voir à quel point petit à petit, on s'avance dans la reconnaissance de ce qu'a été à l'origine, finalement, cette terre qu'on habite tous aujourd'hui. Et je trouvais ça intéressant, à la lumière de notre question d'aujourd'hui, de parler de tout ça avec mes invités. Denis Bouchard est comédien, metteur en scène, historien aussi à tes heures, parce que tu as quand même écrit un livre d'histoire, hein?
Oui, pas tout seul, là, avec Éric Cardinal puis Ghislain Picard, oui, qui s'appelle De Québec à Québec, puis qui parle des premières rencontres, justement, entre les premiers Européens qui sont arrivés ici.
Puis toi, Amherst, tu l'as pas dans ton cœur, forcément. Non, il n'y a pas grand monde qui aime Amherst.
Non, pas du tout.
Avec nous également, Nabila Benyoussef, comédienne, humoriste. Bonjour, Nabila.
Bonjour.
Amherst, ça dit quelque chose?
Ça me dit quelque chose?
Oui.
Ben, ça a l'air d'un général.
Qui a plus de nom de rue.
Oui,
qui a plus de nom de rue. Il y avait sa rue, il n'a plus. Philippe Léger est chroniqueur de la famille de Léger, sondeur bien connu. Merci d'être là, Philippe.
Merci de Léger.
On voulait vraiment avoir un millénial, un millénarial qui vienne nous dire un peu, les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez tout? Parce que on a l'impression que parfois, les définitions sont différentes, le statut est différent. Il y a des choses qui semblent moins déranger les jeunes générations. Je disais aux auditeurs cette semaine, la dernière fois qu'on a posé la question aux 18-34, est-ce que ça vous dérange, par exemple, le bonjour, hi? Les jeunes, deux jeunes sur trois disent, ben non, l'anglais, comment, revenez-en. Je vois bien ce que mes filles me disent. Et puis, c'est un peu. Alors, ça se peut qu'il y ait des choses qui sur lesquelles, au niveau du statut de Québécois, comment tu vois ça, toi? C'est quoi être Québécois aujourd'hui?
Pour moi, c'est quoi être Québécois?
Oui.
C'est une grande question, hein. Mais d'abord, je pense qu'il faut définir être Québécois. Je pense que c'est une culture, une histoire. Et surtout une langue. Je crois que moi, ma génération a peut-être moins une insécurité culturelle que les autres générations auparavant. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'aime pas la langue française? Est-ce que ça veut dire pour autant que la langue française n'est pas appelée à changer? Moi, je crois qu'on peut avoir un attachement à la langue sans nécessairement avoir ce sentiment d'insécurité-là. Maintenant, même que je vois dans le changement de nom de la ville de Montréal, d'Amherst, à un nom Mohawk, pour moi, c'est un Québec qui change. Puis ça fait partie de l'identité. Hein. Cette sensibilité-là envers les peuples autochtones, on la ressent de plus en plus. Et moi, c'est une autre preuve que le Québec change actuellement.
Oui. Denis?
Ah, moi, je suis entièrement d'accord avec Philippe. Vers où ça va aller, je ne sais pas, mais je pense entre autres choses l'identité québécoise se doit d'y avoir une réconciliation avec les
peuples autochtones.
Oh, c'est incroyable, c'est incontestable.
En tout cas, c'est une bonne journée pour faire ça. C'est la journée mondiale nationale des peuples autochtones aujourd'hui. Donc,
je trouve ça tellement intéressant, le cas autochtone, parce que historiquement, le Québec a toujours été une minorité dans le Canada. Historiquement, le Québec est une minorité. Et quand on se regarde le sort avec le peuple autochtone, pourquoi les Québécois, des fois, ont une certaine difficulté, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont aussi été une majorité oppressante. Ils ont aussi oppressé un autre peuple. Et ça, c'est une particularité québécoise, qu'on a de la misère.
Mais la particularité québécoise, je trouve, et puis vous me direz comment, Nabila, tu me diras si tu vois ça comme ça, mais j'ai l'impression que c'est drôle parce que nous, on se sent mal de ça. Tu vois, nous, on est comme en train de nous excuser. Alors que les Anglais du Canada, ça les dérange pas totalement, ça, d'avoir été une majorité oppressante.
Non, mais parce que c'est plus compliqué que ça, Philippe. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de métissage avec les Amérindiens. On n'aurait jamais survécu ici, n'eût été des Amérindiens. Mm-hmm. Et on était très, très près des Amérindiens. Et après 1837, puis après ces années-là, il y a eu un détachement. On a comme renié ces origines-là. Film L'Empreinte, qui a été fait par l'ONF, devrait être vu dans toutes les écoles pour voir ce qui nous reste de cet héritage-là amérindien. On est beaucoup plus amérindien, beaucoup plus métissé qu'on pense qu'on l'est.
Tout à fait. Nabila Benoussef, comment tu vois ça?
Être Québécois, premièrement, parler la langue nationale et l'écrire aussi parfaitement.
Deuxièmement. Et on précise que c'est le français, là, pour ceux qui avaient
le français. Ouais. Parler la langue nationale, le français, la langue française. Et deuxièmement, contribuer à la société. Et troisièmement, et surtout, c'est défendre les valeurs québécoises.
Et les Autochtones, tu leur fais quelle place, toi? Toi, t'as immigré de la Tunisie en 96, donc ça fait quand même plus de 20 ans.
Oui.
Tout le débat autour de quelle place fait-on aux Autochtones, est-ce qu'on doit justement se sentir mal d'avoir été quand même un des peuples comme oppressants un peu, d'une certaine façon, oui?
Faut dire les mots, là. Ben pour moi, les Autochtones, c'est l'origine, c'est le vrai peuple. C'est en tout cas, comme moi aussi, je suis autochtone. Je me considère autochtone dans mon pays d'origine. J'étais autochtone dans mon pays d'origine parce qu'on était colonisés par les musulmans, hein, ce que plusieurs ne le sachent pas, comme on était colonisés par les Français après. Mais on n'était pas des musulmans au début, on était des berbères, des Kabyles, une autre peuple, et la langue existe encore, comme les Autochtones d'ici, les Amérindiens. Donc, pour moi, c'est un peuple qui qu'on doit chérir, qu'on doit tout faire pour qu'il soit toujours présent avec nous, pour qu'il ait les mêmes droits, pour qu'il participe à la richesse, pour tout ça. Voilà, les Autochtones sont importants, et moi, j'ai d'affection, c'est-à-dire j'adore les Autochtones, j'aime les Autochtones. C'est pas dès le début, dès que je suis arrivée.
Mais c'est fou comme on connaît très peu.
On les connaît très peu.
Ouais. Moi, je regarde, là, cet été, il y a les Jeux interbandes qui ont lieu là, à cette île, à Malouettenan.
Où il y a des montagnais.
Où il y a des Inuits. Et c'est eux autres qui accueillent les Jeux interbandes. Bon, je veux dire, personne ne sait ça. Moi, j'envoie mon fils là, faire du bénévolat pendant 2 semaines. Pour dire, regarde, tu vas aller voir ces gens-là, tu vas aller parler avec ces
c'est
gens-là.
C'est quand, ça?
C'est du... ça commence le 5...
C'est du au mois d'août?
5, non, c'est du 5 au 15 juillet.
Ah!
Okay. Oui. Et c'est toutes les bandes, toutes les différentes familles amérindiennes qui se rencontrent puis qui font des jeux autant culturels que sportifs. Puis mon fils, on va faire du bénévolat pendant 2 semaines. Moi, je vais aller leur conduire, on va aller voir... pour rencontrer, mais il n'y a pas...
On peut faire ça, là, ils acceptent. Mais toi, tu es un peu d'Autochtone, sais-tu si tu es d'Autochtone ou pas? Tu es métissé, toi, chez vous, les Bouchards?
On l'est tous.
Les Gilles, vous êtes métissés aussi?
Moi, je sais qu'il y a chez mes grands-grands-parents, il y en a, mais je pense que toutes les familles québécoises ont du sang autochtone d'une manière ou d'une autre.
C'est ça qu'ils sont arrivés ici, il y a 400 ans, il n'y avait pas de femme, il n'y avait rien, là, il arrivait. Tu sais, fait que c'est pas bien compliqué.
À un moment donné, je pense qu'il y a eu comme...
On a tous de l'Irlandais puis de l'Amérindien quelque part. Ça, c'est clair.
Du français, quand même.
Du français, oui, mais tu sais, c'est du normand, c'est du breton, c'est toutes sortes d'affaires.
Ouais.
On est des métis, carrément.
On est métis.
On est métissé, en fait, pas dans le sens des gens du Manitoba. Là,
Alors, je reviens à ma question d'aujourd'hui. C'est quoi être Québécois dans tout ce métissage, justement? Philippe, pour un jeune de ton âge, là, pour un jeune Québécois? C'est quoi aujourd'hui? Mmh. Est-ce que c'est encore important d'ailleurs de dire, ben moi je suis Québécois, je suis pas Canadien, je suis Québécois. Qu'est-ce que tu dis par exemple quand tu voyages puis qu'on te demande qui es-tu, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu réponds? Est-ce que tu dis je viens de Montréal ou je viens de...
Ben, ça dépend, là. Si c'est extrêmement compliqué, on peut dire Canadien, mais moi je pense que mon identité première c'est Québécoise. Et je crois que c'est la majorité des jeunes la même chose pour les jeunes. La majorité dans la majorité du temps. Par contre, je vois dans l'identité québécoise, souvent on définissait l'identité québécoise par notre appartenance politique. On se disait Québécois, on était souverainiste. On se disait Canadien, on était fédéraliste. Et je crois que ce lien-là, cette connotation politique à notre identité, n'existe plus. Je crois qu'on peut bien se définir Québécois et se dire fédéraliste, et inversement. Et je vois également un autre phénomène chez les jeunes. Je crois qu'on se définit également un peu plus par notre proximité dans notre ville. De plus en plus de jeunes vont se définir par leur communauté, leur ville, c'est-à-dire Montréal, Québec. Et dans cette optique-là, il me semble que l'identité, elle change de plus en plus, particulièrement des jeunes. Et je rajoutais une dernière chose qui, moi, m'apparaît fondamentale. Je crois que dans l'identité québécoise, chez bien des jeunes, la préoccupation environnementale est significative, la préoccupation politique environnementale, parce que pour moi, c'est une manière de renouer avec les territoires québécois, qui est une tradition québécoise, là. Monsieur Bouchard peut plus très bien le dire. L'appartenance au territoire, c'est quelque chose de fondamental dans l'identité québécoise. Et je vois dans...
Ça, c'est vrai.
On renoue avec cette identité-là, avec le combat environnemental. Et pour moi, la lutte environnementale, c'est autant une lutte de conservation du passé, une lutte pour régler le problème du présent, parce qu'on l'a bien vu avec les inondations, et c'est aussi une lutte pour préserver, garantir un futur. Et pour moi, dans cette lutte-là, il y a beaucoup de choses qui réfèrent à l'identité québécoise, et c'est pour ça, je crois, que tous les Québécois doivent avoir une préoccupation environnementale.
Oui. C'est intéressant de voir qu'ils nous ramènent ça à l'environnement. On est sur l'identité, tu vois, mais ça prouve exactement.
Mais c'est carrément ça, je trouve. Et ça va être d'autant plus vrai parce que d'un côté, tu as du pétrole, puis de l'autre côté, tu as de l'hydroélectricité, là, tu sais. Je veux dire, c'est
méchant
c'est
clash.
Ça, oui,
ouais.
T'as un méchant clash, là. Tu vas avoir une grosse séparation du territoire très bientôt.
Exactement.
Si on se sent Québécois et si on aime le Québec, il faut penser à l'environnement.
Oui, tout à fait. On va s'arrêter pour la pause. Il y a déjà beaucoup de réactions par rapport à notre discussion, par rapport aussi au fait que, bon, on se pose la question aujourd'hui, c'est quoi être un Québécois en cette journée nationale des peuples autochtones où on en profite à la ville de Montréal pour dire qu'on aura décidé enfin de changer le nom de la rue Amherst, qui est une revendication depuis très longtemps de la part des peuples autochtones ici au Québec, de dire, enlevez-moi ce nom-là, c'était pas un bon personnage dont on veut pas forcément se souvenir. Et quand on est autochtone, on le prend un peu personnel de savoir que cette rue-là porte le nom de quelqu'un qui a essayer de plus qu'assimiler, là, carrément de disséminer complètement, de tuer les...
En fait, il ne faut pas l'oublier, là, mais il ne faut surtout pas l'oublier, mais donnez-y pas une rue.
Exactement, c'est ça.
Une rue à
Mais tu sais, à ce moment-là, pourquoi Wolf continue d'avoir sa rue?
Ben non, mais regarde, là.
Et là, Valérie Plante avait de la misère à... Ben,
on
va en parler justement du paquet de rue, mais tu sais, il y a des gens qui disent pourquoi donner... Il y a Claude qui dit, c'est quoi la logique de donner un nom Mohawk pour remplacer Amherst? Les Mohawks étaient les alliés de Amherst et du roi d'Angleterre. En fait, c'est vrai que les Mohawks étaient... c'est vrai que c'est un territoire iroquois. Les Mohawks sont les derniers des Iroquois, mais c'est vrai que Montréal, Ville-Marie, c'était un territoire iroquoien. Mm. Et c'est vrai que les Iroquois ont été plutôt contre les Français.
Denis.
Là, la chicane est comme poignée.
Les Hurons Wendat font aussi partie de l'Iroquoisie, ils étaient du côté des Français.
Voilà. T'sais. Alors, c'est pas simple.
Ça bougeait beaucoup. Là,
mais pourquoi on n'a pas pris. C'est vrai, pourquoi un nom Mohawk?
Ben parce que c'est.
Parce qu'aujourd'hui, à Montréal, t'as Akwesasne pas loin, t'as Ganisetake, qui est d'ailleurs pas une réserve, qui est à côté d'Oka, mais qui est un territoire québécois, mais où il y a beaucoup de Mohawks, qui a été le siège d'une crise importante en 1990. Et puis, bien sûr, j'en oublie une, là. Akwesasne, Kanisetake et Ganawake à côté. Et Ganawake est une vraie réserve, là, qui est à côté du pont Mercier.
Ouais.
Donc, il y a beaucoup de Mohawks autour. Mm-hmm. Peut-être qu'on veut garder ça tranquille.
On veut une paix
des sages.
Oui, c'est ça. Mettons une rue Inou ici. Moi, j'ai pas de problème avec ça.
Une rue montagnaise. Ben oui, une rue Florent Volant. Une rue Cashton. On va s'arrêter ici, très courte pause. Dites-moi comment vous voyez ça, ce changement de rue. Vous trouvez-vous que c'est une bonne idée que d'avoir choisi un autre nom, un nom autochtone pour célébrer, donc, d'une certaine façon, pour reconnaître l'appartenance montréalaise à cet héritage? Et bien sûr, j'en profite pour vous demander, à quelques jours de la Fête nationale des Québécois, c'est quoi pour vous être un Québécois dans tout ce paysage où il y a beaucoup de métissage avec l'avenue d'immigrants, ces néo-Québécois avec lesquels on partage le territoire? 514-790-9850. Sans Fred partout, vous faites le 1-866-790-9850. On se pose la question ensemble ce matin, c'est quoi être un Québécois? Est-ce que cette notion-là d'identité est au cœur de ce que vous ressentez, vous, ce matin, à quelques jours de la fête nationale? On est en même temps en plein débat là, sur le changement de nom de cette rue Amherst qui, depuis des années, dérange, fatigue les peuples autochtones. Aujourd'hui, c'est la Journée nationale des peuples autochtones et on en a profité à la Ville de Montréal pour confirmer que la rue Amherst ne s'appelle appellerait plus comme tel, mais bien d'un nom Mohawk, Atateken. Nous avons avec nous Gilles Proulx, Gilles qui connaît très bien notre histoire. Bonjour Gilles.
Bonjour ma chère, voyons.
Isabelle, Gilles, est-ce que c'est une bonne idée que de changer ce nom-là d'Amherst? D'abord, resituons le personnage dans le contexte de l'histoire.
Ben d'abord, oui, Amherst qui était un être abject, là, qui ne méritait pas d'être là en présence des Amérindiens qui ont subi les premiers, en tout cas, les sanctions de la conquête. Faut pas oublier qu'entre Lévis, le 8 septembre 1760, on est devant le château de Ramsey, baisse les drapeaux à la demande de Vaudreuil. Il n'y a pas assez d'hommes, l'autre en a 18 000. Ils sont concentrés à la Chine, à Repentigny, à Sorel. Les Iroquois, nous avions quelques Iroquois qui avaient été christianisés dans l'armée, vont quitter même avant, en abandonnant Lévis, pour aller négocier un statut spécial auprès d'Amherst. Ce qui va leur permettre, mais l'hypocrisie anglo-saxonne étant ce qu'elle est, plus profonde que n'importe quel des puits les plus profonds, et ils vont se faire joindre tôt plus tard avec le gouverneur Gage, on est rendu loin dans le temps. Alors, toujours est-il que il va donc se méfier à Amherst. Il déteste les Français et il sait que nous avons tenu 200 ans de temps grâce à nos alliances avec toutes les nations indiennes, sauf les Iroquois. Pour un petit groupe, oui, mais dans l'ensemble, non, pour des raisons géographiques, ils étaient entre les bras des Anglais. Alors, toujours est-il que le premier objectif, c'est de nous séparer des Amérindiens au cas où, justement, il y aurait une révolte, et là, ça pourrait être dangereux pour le pouvoir britannique, qui a déjà peur des velléités américaines, pas loin de Montréal et de Québec. Mm-hmm. Alors, encore une fois, on nous sépare, et la preuve la plus tangible, c'est Pontiac, qui est un gars extraordinaire, un Algonquin, qui soulève, il veut revenir au régime franco-indien, parce qu'ils disons était beaucoup mieux traité, et il va mettre sur pied une armée de 50 000 hommes. Bon, quelqu'un va aller le tuer, c'est justement un Mohawk qui est à la solde des Anglais, et lui, c'est un Algonquin. À part ça, on a eu aussi des amitiés particulières avec les Micmacs. Mm-hmm. Mambert, par exemple, qui était très proche de Champlain. Ensuite, on a eu Condillac. On était en 1701 à la Grande Paix de Montréal, avec Callière. C'est lui qui établit l'ordre pour raisonner toutes les nations. Il y en a 41 nations indiennes qui sont là, pour signer la Grande Paix de Callière, la Paix de Montréal.
Ouais.
Ensuite de ça, on a eu également, parmi les Hurons, donc Condillac, on a un Algonquin, on a un Micmac, et il y a eu d'autres leaders aussi très en vue, proches des Français.
Et donc, voilà. est-ce que le fait d'avoir choisi un nom Mohawk, parce que là, Gilles, tu nous resitues, puis les Iroquoiens, je veux dire, c'est une grande famille qui comprend plein d'autres tribes, comme ils appellent, donc clans, si vous voulez, bandes. Oui. Il y a les Mohawks, oui. Il y a les Oneida, il y a les Onondaga, il y a les Seneca, il y a les, à la rigueur, oui. C'est une grande famille, les Iroquoiens, dont les Mohawks font partie, mais au niveau des alliances franco-anglo à l'époque, est-ce que c'est approprié d'avoir choisi un nom Mohawk? C'est peut-être ça qu'on doit se demander ce matin. Là. C'est ça le...
C'est carrément une provocation. On aurait pu donner tout simplement la rue des Premières Nations écrite en indien s'il le fallait, mais c'est qu'on aurait créé un envie tout de suite. Est-ce qu'on l'écrit en algonquin? Est-ce qu'on l'écrit en, en Mi'kmaq? Est-ce qu'on l'écrit en Abénakis? Alors, non. D'abord, donner évidemment le nom Iroquois, c'est une insulte. Ça ressemble vraiment à Valérie Plante, qui est une ignorante de première espèce, qui a été rabouée par les plus grands historiens qui n'ont rien compris et n'écoutent pas, qui connaissent pareil auparavant, pour s'apercevoir qu'ils n'ont jamais été. Faut lire les historiens américains, faut lire également les nôtres pour s'apercevoir qu'entre Jacques Cartier et Champlain, ils n'étaient pas là, ce n'était pas leur territoire.
Ouais.
Il y a deux groupes d'Iroquois, il faut faire attention, vous les avez nommés tout à l'heure, ils sont situés près de Syracuse, le long du lac Ontario, et ceux qui sont dans le fond du lac Champlain, c'est ceux-là qui étaient nos ennemis surtout.
Exactement, exactement. Donc, ça va demander une meilleure connaissance, Gilles Proulx, de l'histoire autochtone. Et ça, là, le bas blesse parce qu'on l'apprend à peu près pas, là.
On n'apprend même pas la nôtre.
Alors, voilà, imagine celle des autres. C'est pas drôle.
Moi, j'aurais opté pour la rue des Premières Nations, tout simplement.
Ouais.
Ou encore la rue de la Grande Paix.
La rue de la Grande Paix. Mon Dieu, que c'est une belle idée, Gilles.
Ouais. Il y avait 41 nations réunies dans le Vieux-Montréal sous l'égide de Calière, avec Condillac, qui est un Huron, qui est l'espèce de père du succès de cette réunion-là, de la Grande Paix, qui va durer quoi, 20-25 ans. Mmh. Alors, je ne comprends pas ce choix, cette flatterie encore une fois. Et les Iroquois de Montréal sont mal intégrés. Ça, c'est le gouverneur Gage plus tard qui va les stationner dans des terrains qui deviennent des Anglais et des francophobes. Alors, je peux pas comprendre ces espèces de tordages, encore une fois, de choix foncièrement anti-québécois.
Oui, parce qu'en plus, même d'un point de vue autochtone, puis on va parler après la pause à Mélissa Molène-Dupuis, il y avait dans les Iroquois qui habitaient dans le coin là, autour, ce qui est aujourd'hui, il faut que je fasse attention aux mots, on a de la misère à l'expliquer finalement parce qu'il faut tellement brusquer personne, mais ce qui est aujourd'hui le territoire de la grande région de Montréal, auparavant, tu l'as bien dit Gilles, c'était donc occupé par la famille iroquoienne qui comprenait les Hurons et les Mohawks, et les Mohawks ont chassé les Hurons. Les Hurons,
exactement.
Les Wendats. Donc à la rigueur, aujourd'hui, t'es Huron. Tu peux te sentir un peu offusqué que Amherst ait été remplacé par ce nom Mohawk.
Il ne faut pas oublier que les Mohawks voulaient carrément les éliminer. En plus de ça, ils vont être...
Mais ils ont réussi quasiment.
L'épidémie au lac Huron, puis ils s'en viennent petit à petit, puis ils s'amènent ici autour du fort de Maisonneuve plus tard, puis autour du fort de Trois-Rivières et de Québec. Et là, ils deviennent des principaux alliés des Français.
Ouais.
Et puis, ils n'étaient pas d'aussi bons bagarreurs, aussi impitoyables en tout cas. Mais à la fin du régime français, grâce aux Abénakis, aux Mi'kmaq, qui étaient les plus fidèles et les plus durs, ils vont apprendre à se battre comme les Iroquois. Et on va le trouver avec Montcalm à la bataille d'un des forts le long du lac Champlain, où ils font un massacre épouvantable à la technique iroquoienne.
Merci beaucoup, Gilles, pour cet éclairage historique sur notre question de ce matin, sur ce qui se passe donc dans l'actualité, la rue Amherst qui a été rebaptisée Adadeken. J'espère que je le dis bien. Merci, Gilles Proulx était avec nous. On s'arrête ici, très courte pause. Dites-moi si vous estimez qu'on a comme un peu évolué dans notre question. Je voulais qu'on parle de notre aspect identitaire québécois, mais finalement, en cette journée nationale des peuples autochtones, avec l'actualité qui nous force un peu à discuter de ça, pour notre plus grand plaisir, parce que finalement, on s'éduque tous en faisant ça. Là, on apprend plein de choses ce matin. Tout de suite après la pause, d'ailleurs, on va parler à une autochtone qui va nous dire, elle, comment elle voit les choses. Mélissa Molène-Dupuis est présidente de Wapikoni Mobile. Elle est co-organisatrice de Idle No More Québec. Vous en avez entendu parler, bien sûr. Et j'ai hâte de vous entendre également là-dessus. Vous pouvez nous joindre en faisant le 514-790-9850. Ça en ferait dans la grande région de ce territoire iroquoien. 1-866-790-9850. Bon, alors je vous le dis que la chicane est prise là, ce matin. Je sais pas si on a déjà eu une paix des braves, mais là, ça repart en grand parce que là, on cherche. Sincèrement, ce matin, là, je disais à Denis Bouchard, à Nabila Ben Youssef et à Philippe Léger, mes invités, on voulait parler du fait d'être québécois, de l'identité, mais je leur disais, moi, je me cherche. Puis si vous en connaissez, on est bien ouvert. Un historien qui connaît véritablement l'histoire des Iroquoiens. Parce que là, Gilles fait pas l'unanimité forcément non plus. La preuve, c'est que Mélissa Molène-Dupuis est avec nous. Elle est présidente de Wapikon Immobile et les coordonnatrices Cédule No More Québec. Bonjour, Mélissa.
Oui, bon matin.
Oui, oui, bon matin, certain. Mais dis-moi, je pensais que tu n'allais pas être d'accord avec ce nom Mohawk, parce que toi, tu n'es pas une Mohawk.
Oui, je ne suis pas Mohawk, mais je suis totalement d'accord avec le nom. C'est d'ailleurs un nom qui a été choisi en comité avec autochtones, non-autochtones, et ça veut dire frère et sœur ou fraternité dans la langue Mohawk.
Oui.
Donc, plutôt que de choisir une célébrité, un nom honoré, ils ont décidé de célébrer une idéologie amenée, c'est-à-dire celle de la fraternité, celle de changer la relation entre autochtones et non-autochtones par le changement de cette rue-là. Donc, c'est pas de mettre une vedette de l'histoire contre une autre vedette de l'histoire, mais vraiment de changer notre manière de faire entre peuples. Et moi, je suis totalement d'accord parce que je reconnais constamment que je suis en territoire comme invitée, c'est-à-dire soit un territoire Mohawk, mais qui était aussi partagé avec les Algonquins, les Abénakis.
Les Hurons.
Les Hurons étaient beaucoup plus autour des Grands Lacs. Ils sont venus ici justement à cause de la guerre entre les Anglais et les Français. Mais ils passaient aussi, je veux dire, les Iroquois, là, ouais. Les peuples Iroquois voyageaient quand même. Là, il y a des traces des Iroquois jusque sur la basse côte nord, comme il y a des traces de la culture Innu jusque dans le sud des États-Unis. On n'était pas forcés dans le territoire, on voyageait, on avait des échanges. Donc, aujourd'hui, par la sédentarisation,
oui.
Sédentarisation forcée, ouais. On est obligé d'être dans les mêmes territoires constamment à cause des réserves. Mais on voyageait constamment, on avait des échanges, on faisait des mariages. Et les alliances qui ont été créées à un moment à cause de la guerre entre Français et Anglais ont bénéficié des fois des stress territoriaux entre certaines nations, quitte à dire qu'ils étaient des nations ennemies, mais souvent il y avait des moments de paix aussi, donc c'était pas aussi blanc et noir qu'on aime le décrire. Et malheureusement, quand j'entends parler des alliances entre les Français, les Algonquins, puis les Anglais, les Iroquois,
ouais.
J'entends ils nous étaient fidèles, ils nous étaient comme si on était une propriété, puis on s'est rendu compte après.
Ok, c'est ça qui te dérange. C'est ça qui te dérange, c'est la façon de présenter.
Ouais. Instrumentalisé, on a les batailles locales étaient instrumentalisées pour des guerres. Et ensuite, quand ces guerres ont pris fin, eh bien, comme les alliances n'étaient plus utiles, ces relations-là sont mortes d'elles-mêmes. Je veux dire, les pensionnats, la loi sur les Indiens, qui sont venus justement avec le fédéralisme, ont quand même été implantés dans les provinces telles que le Québec, où on disait que les alliances étaient beaucoup plus fortes, mais c'est les mêmes systèmes qui ont vécu, ouais. Qui ont été pris en charge par les Québécois francophones. Donc, il faut maintenant passer à travers cette histoire-là, voir ce qui a été fait, les erreurs qui ont été commises, et ne plus les recréer. Plutôt que de juste dire qui était un maudit contre qui, parce qu'on va continuer à faire ces chicanes-là.
OK. Donc, toi, tu veux passer même par-dessus les chicanes entre tribus autochtones. Ça, tu dis, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'on reconnaisse que Amherst était anti-autochtone. Genre.
Les chicanes, non, mais les chicanes. Ouais, premièrement, de voir que c'était un homme qui a utilisé des techniques génocidaires, des guerres bactériologiques, c'est pas une personne qu'on a envie d'honorer. De la même manière que, justement, la Banque BMO, aujourd'hui, changeait la plaque qui a été contestée, qui disait qu'ici, Maisonneuve a étranglé à main nue un chef indien. C'est-à-dire qu'on peut pas glorifier le meurtre ou la destruction d'un être humain, peu importe son origine ethnique. C'est pas une morale sur laquelle on peut baser notre futur. Mais par exemple, il faut se rendre compte que les chicanes de 1700, ce ne sont plus les chicanes de 2019. Et nous, les Premières Nations, on travaille en collaboration. Le chef, Justin Picard était là, les chefs, moi, qui avaient une présence autochtone quand même très grande à l'événement. Et on s'entend qu'on doit faire des collaborations parce que présentement, se tourner uniquement sur essayer de garder une idéologie du passé sans en apprendre justement à éviter les erreurs, va nous amener vers des erreurs du futur. Fait que je vois aujourd'hui qu'on n'apprend pas de l'histoire parce qu'on nous l'enseigne pas.
Mais toi, par exemple, Mélissa Molène-Dupuis, tu te considères comment? Si je te demande qui es-tu? Comment tu te décris? Oh. On parle d'identité québécoise ce matin avec avec Nabil. Comment tu te décris à quelqu'un là, que tu rencontres pour la première fois?
Moi, je suis Inou. Ouais. Puis le monde dit, ouais, mais ton père est Québécois. Je dis, oui, oui. Moi, je suis Inou qui a un père Québécois. Mon identité, mon éducation, tout est tourné autour de la culture Inou. Sauf que l'éducation qui est venue de mon père, qui était Québécois, a renforcé mon désir de faire un lien entre nos deux communautés. Si cet homme-là n'avait pas tellement cherché à conserver mon histoire, à m'encourager à apprendre ma langue, mm-hmm. à valoriser justement ce côté-là Inou, en même temps qu'il valorisait le côté québécois, sans en mettre un par-dessus l'autre, j'aurais pas eu autant le désir de faire Idle No More, de réparer, de patcher les problèmes de l'histoire, parce que aujourd'hui, on peut pas déchirer nos nations qui ont été tissées ensemble et les nations qui se rajoutent à nous à chaque année, qui tissent des liens avec nous. On peut patcher en espérant que le prochain tissage des prochaines décennies se fasse beaucoup mieux sans de gros trous, parce que là, il y a des gros trous dans l'histoire.
Est-ce que tu te rallierais tout de même à... Tu vois, je pense que pour la bonne compréhension que tout le monde, et surtout pour faciliter le langage aussi, je pense que l'idée de Gilles Proulx de dire cette rue-là, on pourrait l'appeler la rue de la Grande Paix, qui est en français d'ailleurs, et puis bon, qui est un beau symbole, qui est pas le nom de quelqu'un. On peut toujours se tromper hein, avec une personne, on peut toujours en apprendre plus tard, mais avec un symbole comme la Grande Paix, est-ce que ça aurait pas été une belle idée, ça, Mélissa?
Ben, la Grande Paix de 1801, c'était une paix qui a été faite avec toutes les autres nations, puis en utilisant le mot Adadegen, on utilise un mot qui vient de la nation qu'on reconnaît comme étant présentement le gardien du territoire, c'est-à-dire qui surveille, qui veille sur ce territoire-là.
Oui, mais ça, tu vois, ça peut être débattu, là, ça. Là. Ça, ça peut être débattu. Ça a été choisi Mohawk, mais ça peut être débattu, le fait que ce soit des Mohawks.
Si les Premières Nations ne le débattent pas, pourquoi est-ce que les Québécois le feraient à notre place? Si nous, on s'est mis d'accord, on a un consensus, car on travaille en consensus, puis qu'on se dit que c'est un mot qui est approprié, mais qui fait réapparaître les langues autochtones, surtout que 2019, c'est l'année internationale des langues autochtones.
Ouais.
On n'a pas besoin de mettre le mot en français pour qu'il y ait une signification importante. Il peut l'avoir encore plus d'importance parce qu'il a, c'est un nom... Ouais.
Avant de te laisser aller, je dois vraiment accélérer un petit peu, mais c'est fort intéressant tout ce que tu nous dis, Mélissa. Est-ce que tu te considères québécoise?
Moi, je me considère Inou avant tout, mais par exemple, le Québec, c'est mon territoire depuis plus de 7000 ans. Fait que oui, si on doit nommer le mot en français, je suis du Nitassinan. J'ai ça à cœur autant que n'importe qui.
Et est-ce que tu fêtes la fête nationale des Québécois?
Oui, mais pour moi, c'est la fête le 21 juin, c'est ma fête nationale, fait que je suis déjà en grosse célébration pour le week-end.
Puis toi, c'est pas le solstice, là, c'est la journée nationale des peuples autochtones.
Des peuples autochtones, mais le solstice est parti à tout le monde. On célèbre l'été puis l'arrivée du beau temps.
Ouais. Mais le 24, tu fêtes la Saint-Jean.
Oui.
OK. Merci.
Le 1er juillet, je déménage.
Bon, c'est ça, quoi. Ça, c'est. Oh, c'est très bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps de parler tout de suite à Pierre Trudel, qui est anthropologue à l'UQAM? Bonjour, Pierre Trudel.
Bonjour.
On a besoin d'un petit peu de recadrage historique, là, par rapport à... Bon, on enlève le nom Amherst, on met un nom Mohawk. Qu'est-ce qu'on a raison de faire ça, Pierre Trudel?
Écoutez, oui, on a raison d'enlever le nom Amherst. Et moi, je suis pas historien, là, mais plutôt anthropologue et je m'occupe de la situation contemporaine. Et je pense que ce toponyme-là ne faisait pas consensus de moins en moins. Peut-être que certains peuvent être fiers du mot Amherst, ceux qui sont fiers du fait que les Britanniques ont établi leur souveraineté dans toute l'Amérique du Nord. C'est un des acteurs importants, c'est un militaire, là. Mais la Commission de toponymie du Québec dit qu'il devrait y avoir un des critères, c'est que ça fasse consensus. Et okay. Ça faisait de moins en moins consensus. Donc, on le remplace par un mot, Mohawk, c'est très bien. Moi, j'avais fait quelques recommandations. Ça aurait pu être une femme Mohawk, Mary Truax Early, qui s'est battue pour l'égalité des sexes. Mais on a retenu, moi, un nom... Qui est contre le stéréotype là, des Amérindiens guerriers. Là. Ça veut dire le partage des valeurs.
Ouais.
Ce qui est une très bonne chose. Puis d'un autre côté aussi, ça va être un peu un renversement d'histoire, puisque après avoir un peu forcé les Autochtones à parler français ou anglais, mais là, les Montréalais vont prononcer un mot autochtone.
Comment vous le prononcez, Pierre Trudel?
Moi, je ne sais pas. Là, je ne suis pas expert du Mohawk. Mais ça ressemble à un mot, un toponyme inou même, ça, ce toponyme-là. Il n'est pas trop compliqué. Et je pense que les Québécois vont se l'approprier rapidement, comme Chicoutimi.
Oui, Adadekin. Adadekin, on va dire, ou Atatekin, on peut... L'important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rue Amherst. Merci beaucoup, Pierre Trudel. Merci bien. On s'arrête ici et on poursuit tout de suite après la pause. Oui, on a Laurent avec nous, qui est un auditeur qui a suivi notre débat depuis le début. Vous en pensez quoi, vous, Laurent, de toute cette discussion Amherst qui prend le bord, remplacé par Adadekin, non Mohawk? Êtes-vous d'accord avec ça?
Bonjour, Mme Maréchal. Moi, j'aimerais vous dire que j'en ai vraiment ras-le-bol des revendications des Indiens à tout bout de champ. Il y a quelque chose qui ne fait pas leur affaire. C'est impensable que les gouvernements ne fassent rien en ce sens-là. M. Harper, dans l'ancien gouvernement, avait la bonne solution quand il disait on veut aider les Indiens, mais on veut savoir où l'argent va. On passe notre temps à donner des argents que tout le monde paye, tous les Québécois payent, puis tout le monde au Canada.
Ouais.
Mais on sait jamais où cet argent-là va. Puis ils ont toujours quelque chose à demander. Si ça continue, là, ils vont nous demander tous de porter une plume.
Oui, merci. Je pense pas, Laurent. Et c'est drôle parce que le discours de Laurent, transposez-le dans la bouche d'un Anglais de l'Alberta contre les Québécois. C'est la même affaire. Changez de nom, puis vous allez voir. Est-ce que c'est l'autre qui nous dérange, finalement? Je sais pas. Serge, je dis ça de même, là, ce matin. Serge, bonjour. Votre opinion?
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, je voudrais pas aller loin dans l'histoire parce que sans ça, ça irait trop loin d'avant que les Iroquois soient ici. Donc, faut jouer avec aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est les Iroquois autour de Montréal. Puis c'est un mot rassembleur quand on... Fait que, parce que sans ça, Montréal, c'est français. Comme c'est les Iroquois qui sont là, ben, un mot iroquoien, ça fait mon affaire. Sans
donc,
ça,
OK, vous êtes d'accord, ça, donc, vous. Alors, c'est une bonne idée.
Ben, à moitié, parce que ça se remonte dans des choses qui sont pas... L'histoire s'écrit rien que depuis que nous autres, on est là.
Ouais.
Parce que sans ça, si on va dans les genèse,
mettons, ouais.
des Ojibwés, là.
Ouais.
Eux autres sont partis d'une place qui avait cette île qui devait être montérégienne à l'époque de la mer de Champlain.
Merci. On a tous une vision de l'histoire. On ne commencera pas tous à raconter ce qu'on a retenu de nos cours tellement, tellement pauvres. Denis Bouchard, j'aimerais vous entendre tous les trois, là, parce que on a comme un peu dévié de notre débat sur ce que c'est qu'un Québécois.
Non,
mais
oui,
finalement,
non, mais
finalement
c'est
on est en plein dedans, là, finalement.
C'est beaucoup ça, tu sais. Ouais. T'sais, moi, j'ai tendance à croire des fois que l'identité québécoise, c'est un cône orange, là. T'sais, c'est en sursis, là. Il y a quelque chose qui va se passer, il y a une nouvelle génération, il y a des rencontres qui se font, mais moi, je suis persuadé que tout se fait à travers le métissage. Quand tu fais du métissage, tu fais des rencontres entre les peuples, quels qu'ils soient, les nouveaux arrivants, n'importe qui, et tu peux créer quelque chose. Le multiculturalisme, pour moi, est l'ennemi juré du métissage. C'est tout le monde reste dans son petit coin puis tu fais tes petites affaires.
Ouais.
Il n'y a pas de rencontre possible.
Tu disais au Québec, en le fond, notre identité est beaucoup plus métissée que multiculturelle.
Ben oui. Quand il y a du métissage, il n'y a pas de guerre.
Oui. Oui. Nabila Ben Youssef, comment tu vois ça? Là?
Ben, premièrement, je peux pas, tout à l'heure, il y a Mélissa qui disait, le 1er juillet, je déménage. dans mon premier spectacle, c'est la question que j'ai posée en premier. Je dis, mais pourquoi les Québécois déménagent le 1er juillet pour saboter la fête du Canada? J'ai toujours vu ça de même. Mais bon, l'identité, écoutez, moi, par exemple...
Est-ce que tu te sens interpellée par tout ce débat autochtone, francophone, comme immigrante là, depuis plus de 20 ans au Québec, qui vient d'un pays arabe?
Et je me dis tout le temps, comment ça se fait que ce n'est pas encore réglé, tu vois?
Ouais,
ça fait une éternité que ce débat existe, puis ce n'est pas encore réglé. Et ça ne se réglera jamais. Oh, par exemple, je donne l'exemple de l'Algérie.
Ouais.
Les Berbères, parce qu'ils représentent un très, très grand nombre, surtout en Algérie. Et ce n'est pas encore réglé aussi, malgré des millénaires, tu vois. Alors,
dès qu'on joue dans l'histoire, en fait, ça devient extrêmement complexe, parce qu'il y a toujours plusieurs façons de voir l'histoire, ou de lire le même livre, on s'entend.
Justement, mais chacun a sa version et son interprétation en
dérive pour l'histoire. Philippe Léger?
Mais pour moi, il y a deux choses. Il faut voir dans, là-dedans un geste d'ouverture. Avant tout, les obstinations sur le nom, il y a quand même un geste d'ouverture qu'il faut signifier. Moi, je ramènerais une deuxième chose.
Ce qui est très québécois.
Ce qui est très québécois.
Selon une analyse faite par Léger.
Par Léger. Ouais. Mais moi, je ferais une dernière chose, c'est sur la langue. Je crois que qu'est-ce qui nous différencie comme Québécois, c'est la langue qu'on parle. Parce que sinon, comme culture, comme histoire, on a des choses qu'on partage avec toutes les autres cultures, les autres, autres peuples.
Excuse-moi, maintenant, il y a autre chose. C'est la laïcité aussi. Parce qu'on est la seule province où la loi est passée, tu vois.
Mais c'est ça, puis c'est intéressant, mais
je crois que sur notre langue... On n'est pas les seuls dans le monde non plus, là. Ça va passer dans bien les pays.
Donc, tu dis?
Bien, on a plusieurs, dans notre langue, on a des américanismes, des anglicismes, des mots qui viennent des langues amérindiennes. Donc, il y a plusieurs choses dans notre langue qui parlent un peu de notre identité.
Bien, justement, il y avait eu un document à la suite de ce que Léger avait fait à l'époque, et on disait qu'on était finalement, non pas des Français, mais des Américains qui parlent français.
Exactement.
C'est ça, on vient d'ouvrir un autre débat, là.
Dans le Code Québec.
Merci à tout le monde, merci.
Merci.